Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Sepia sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et bien voilà, nous continuons nos émissions, il est 12h15, vous êtes sur Immo et Territoria, on est ravis de vous recevoir. Voilà, vous donnez les informations du secteur, troisième et dernière journée du 84e congrès de l'Union sociale pour l'habitat. Ce que je dis à chaque fois, rassurez-vous, j'étais pas là au premier. Sinon, je serais juste un peu vieux. Voilà. Merci en tout cas d'être avec nous. J'ai le plaisir justement de recevoir ceux qui influencent et qui fabriquent de la ville et du logement pour les Français au quotidien. Nadia Bouillet, bonjour.
Bonjour Sylvain.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale d'Action Logement Groupe, comment ça va?
Ça va.
Ben, je suis ravi que vous soyez avec nous sur le plateau. Le logement social, quand on voit le chiffre des agréments légèrement au-dessous de 90 000, on se dit qu'on ne pourrait pas aller plus bas, que ces chiffres sont inquiétants, sidérants, et même posent à cette responsabilité, ce questionnement, puisque in fine, ce sont bien les Français qui sont concernés par le logement, et on voit que la précarité sur l'accès au logement s'accroît de plus en plus. Est-ce que, je vais faire le lien entre l'utilité du logement social, bien évidemment, et du rôle majeur que vous avez chez Action Logement Groupe, avec la nouvelle nomination de Valérie Létard à la tête du logement, enfin un ministre de plein exercice?
Alors, La nomination de Madame Létard, c'est une très bonne nouvelle pour le secteur, hein, puisqu'en plus on a un ministère de plein exercice et qui était réclamé par les acteurs du secteur. Donc ça, c'est une reconnaissance de l'importance, hein, du secteur du logement, mais aussi de la rénovation urbaine, hein, qui est dans le titre du portefeuille ministériel. Donc ça, évidemment, il y a, je dirais, beaucoup d'optimisme et de satisfaction, on va dire, du secteur. Et on le voit ici. Elle est, en plus, elle a choisi le congrès HLM pour son premier déplacement. Elle était avec nous toute la journée hier. Elle est encore là aujourd'hui. Elle fera la clôture. Donc ça, c'est vraiment, on l'a senti, hein, il y a une attente très forte de la part du secteur. Et juste pour revenir sur ce que vous disiez, c'est vrai qu'on est dans une conjoncture très très difficile. Donc ça, il faut avoir conscience de ça. Ici, tout le monde en est conscient. Moi, je prends la parole aussi auprès de vous pour peut-être aller encore plus loin et dire oui, on a une situation préoccupante, pas que à cause des agréments de logements sociaux. On est à moins 20% au niveau de la construction de logements neufs. On est à peu près même plus que ça sur les transactions immobilières. On a donc une difficulté, hein, pour les Français d'accéder à la propriété, ce qui bloque aussi la chaîne du logement. Et donc, on a de plus en plus de demandeurs de logements sociaux. On est à 2 700 000 ménages qui attendent un logement social. C'est énorme. Et avec une rotation dans le parc qui diminue, on a perdu en 2 ans 2 points, donc 2% de rotation. Donc 2%, c'est l'équivalent.
C'est une dizaine de milliers de logements.
C'est 110 000 logements. Chaque
110
année,
000 logements.
C'est énorme. Et en fait, vous voyez, par rapport à la construction neuve, c'est même ce phénomène de, je dirais, de plus pouvoir finalement accéder et je dirais fluidifier cette chaîne, c'est un enjeu majeur. Donc on a là un blocage, et donc il y a un enjeu dans les prochaines semaines justement d'arriver à trouver les moyens de remettre du lien, de fluidifier et puis de débloquer beaucoup de choses pour que les Français aient des solutions logement, parce que le logement, c'est d'avoir un toit, c'est la première sécurité pour nos concitoyens. Si on n'a pas de toit, en fait, on va pas trouver d'emploi, on va pas pouvoir construire une vie de famille, on va pas pouvoir aussi simplement se sentir bien. Et donc, on a vraiment, c'est un premier facteur de sécurité. Et on a le logement, la santé.
C'est le premier marqueur social.
La santé, l'alimentation, le logement, c'est vraiment les trois facteurs qui sécurisent. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et cette problématique du logement, elle doit être vraiment vu de ce point de vue-là, du point de vue des habitants, et pas du point de vue de tuyaux ou de circuits. Et en fait, il faut pouvoir débloquer la situation pour pouvoir offrir des perspectives. Et aujourd'hui, c'est ce manque de perspectives qui contribue aussi à une grande inquiétude de la population.
Mais qu'est-ce qui explique, Nadia Bouillet, vous qui connaissez bien le secteur, que nous puissions en arriver là? Est-ce que c'est une défaillance des politiques publiques, peut-être une manque de perception des différents gouvernements sur l'approche liée au logement. Comment se fait-il finalement qu'on ait pu à ce point cumuler des défaillances à ce niveau pour arriver à cette catastrophe nationale sur le logement? Vous avez cité 2 700 000 personnes en attente de logements sociaux, mais on peut citer aussi les chiffres qui ont été publiés par la Fondation Abbé Pierre sur le mal logement, sur les, l'hébergement d'urgence, sur les difficultés majeures. On atteint des chiffres qui sont vertigineux. On voit bien que la précarité s'est accrue avec une perte sensible du pouvoir d'achat lié au logement. Et je vous l'avais dit, on en a reparlé, mais l'INSEE a publié son résultat, vous savez, sur la charge contrainte liée au logement, l'alimentation et autres. On voit qu'en 2 ans, on est passé de 18,1% sur la charge contrainte du ménage sur le logement à 26%. Ça pose question quand même.
Oui, tout à fait. Alors, je vais partager avec vous un autre chiffre qui est issu de notre observatoire des mobilités. En fait, on fait chaque année une enquête avec le CREDOC et on embarque dans le questionnaire du CREDOC un certain nombre de questions. Donc, ça fait 8 ans qu'on fait ça, ce qui nous donne une série qui... encore une série longue, mais une série intéressante, et on pose des questions aux Français sur justement des questions de logement et de mobilité professionnelle. Et on leur pose toujours la question, est-ce que ces dernières années, vous avez dû, ou à un moment dans votre carrière, renoncer à aller vers un emploi à cause de la problématique du logement et de devoir déménager, et donc la difficulté à trouver un logement ? C'est à peu près stable sur la population entière et sur les jeunes de moins de 30 ans. Ils étaient 23% à nous dire, donc sur la population globale c'est 19%, mais sur les jeunes de moins de 30 ans, ils étaient 23% à dire avoir renoncé à un emploi à cause de devoir déménager. C'était il y a 2 ans, en 2022, et début 2024, ils sont 30%. Donc on a pris 7 points. Donc là, c'est vraiment, il y a une accentuation des problématiques ces 2 dernières années. Alors pourquoi c'est arrivé? Il y a eu on parle de crise multifactorielle. On a enchaîné avec il y a eu le confinement, il y a eu la crise des matériaux liés en fait à la situation en Ukraine. On a eu la crise énergétique. Donc on a eu beaucoup de facteurs qui se sont combinés et puis les taux d'intérêt qui sont montés. Donc en fait, on a beaucoup de choses qui arrivent dans une temporalité très rapide, alors qu'avant, on avait une assez grande stabilité des macro-facteurs. Donc là, ça arrive très vite. Et pendant ce temps, il y a une politique, on va dire, d'austérité vis-à-vis du logement, avec un certain nombre de ponctions. Je pense à la réduction de loyer de solidarité qui est venue ponctionner depuis 2018 les organismes. À ce moment-là, on avait des taux bas, on avait un livret A qui était même en dessous de 1%. Le taux du livret A, il monte à 3%, et en fait ça fait doubler, voire tripler pour certains organismes la charge de la dette. Et en fait, cette charge de la dette, c'est vraiment des investissements en moins aussi pour aujourd'hui. Donc ça, c'est cette contrainte financière, elle est très très forte, et elle conduit déjà à des difficultés parce qu'on a mis en tension tous les organismes avec ce prélèvement sur l'exploitation, puis derrière on a ces charges qui augmentent et qui sont du coup très difficiles. Et là je parle des organismes de logement sociaux, mais du monde de la promotion, difficulté à financer des opérations. Donc nous, Action Logement, dans ce contexte, on a continué à produire, c'est-à-dire mobiliser les réserves de nos filiales, les réserves aussi d'Action Logement Service qui ont été vraiment entièrement mobilisées. Donc c'est assez énorme.
Vous avez d'ailleurs acheté massivement
pour produire davantage, pour accompagner aussi nos concitoyens. Je pense aux mesures qu'on a prises après la crise sanitaire pour aider au pouvoir d'achat. Mais là, l'année dernière, ça fait 2 ans qu'on alerte sur ce qui va se passer là. Donc maintenant, ça arrive. L'an dernier, on a pu signer avec Madame Borne la convention quinquennale, donc qui cadre notre feuille de route sur 5 ans. Et je dirais heureusement qu'on a pu la signer, puisqu'on a pu derrière lancer, et on a lancé ce plan 30 000 logements pour l'emploi, qui nous a permis d'acquérir auprès des promoteurs 34 500 logements.
Donc vous avez dépassé l'objectif que vous
étiez. Tout à fait, auprès de 400 promoteurs. Et ces promoteurs-là, ça a permis de jouer en fait un rôle contracyclique vis-à-vis du secteur, et donc d'apporter des investissements. Et le niveau d'investissement d'Action Logement...
Est-ce que vous allez continuer en 2025
En fait, c'est vraiment un plan d'urgence qu'on a mis en place. Donc, quelque part, on a mobilisé toutes les réserves financières de nos sociétés. Donc, on ne peut pas continuer à ce niveau-là. Ce qu'on a proposé aux promoteurs, et donc là, il y a eu un bel événement hier, c'était une convention cadre avec la Fédération des promoteurs immobiliers et puis le Pôle Habitat FFB, et qui s'est déclinée dans une temps 30 conventions particulières avec des promoteurs pour co-construire ensemble, travailler ensemble, c'est-à-dire travailler, alors évidemment acheter des logements en VFA, mais pas seulement, construire ensemble des projets sur des fonciers des uns ou des autres, et donc en fait, et se donner des objectifs ensemble de bien construire la ville avec des, en préparant la transition dont nos villes ont besoin aussi, agir sur les transformations déjà de sites existants, travailler sur aussi je dirais la revégétalisation, la décarbonation du parc, et donc tous ces objectifs on les partage avec nos avec les promoteurs et nos partenaires, hein, qui sont nos partenaires là-dedans, et on continuera à jouer ce rôle parce que c'est notre responsabilité, c'est un choix des partenaires sociaux, hein, qui ont vraiment volontairement choisi d'accompagner et de jouer ce rôle-là, mais c'est important de le noter parce que sans ça, la situation serait encore plus grave aujourd'hui, et ça a été bien dit aussi hier, hein, sans notre intervention, puis celle de CDC Habitat qui a acheté également 17 000
logements. En fait, vous avez joué le rôle d'un amortisseur social et économique absolument incroyable. Alors, je, bien évidemment, je vais faire mon journaliste là-dessus en disant que vous avez aussi permis la pérennité, la survie et la vie de certains promoteurs qui étaient quand même un peu limite, parce qu'effectivement, on avait besoin de cela. Est-ce que cette situation qui est arrivée quand même à son paroxysme, à la fois sur les problématiques de logement des Français, sur le logement social, mais pas que. Je rappelle quand même que le marché locatif privé loge environ 162% de locataires seraient éligibles au logement social. Donc on voit bien qu'on a besoin des petits investisseurs privés, on a besoin aussi de ces formidables machines qu'est Action Logement, justement, et je voudrais parler de ça. Vous êtes arc-bouté sur une philosophie de base qui est celle de rapprocher le plus possible les salariés de leur logement. Et parce qu'on voit bien que les problématiques de mobilité, d'aller sur le logement, d'aller sur l'emploi, sont parfois délétères lorsqu'on est obligé, par exemple, de faire 30, 40 ou 50 km en zone tendue avec les problématiques de transport et les problématiques d'embouteillage, etc., etc. Et donc c'est un vrai sujet, hein, c'est un vrai sujet. C'est même un sujet de santé publique, hein, on va bien plus loin. On voit que le comportement et le moral des Français se dégradent considérablement dans certaines zones tendues à cause des transports. Enfin, vous vous rendez compte, 4 heures par jour, c'est juste pas possible et c'est pas entendable. Et vous avez cette mission chevillée au corps. Avez-vous cette impression que les élus locaux, les régions, les départements accompagnent favorablement ce mouvement ou ont bien pris conscience de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui?
Franchement, oui.
Et que du coup, Action Logement devient, enfin, moi je vois ce que vous faites, devient l'outil hyper intéressant, hyper essentiel, parce que vous travaillez sur plusieurs classes d'actifs en plus, vous travaillez sur du logement, mais aussi sur des pieds d'immeubles, vous accompagnez les collectivités locales dans la refonte et la requalification de quartiers de ville, et notamment, je fais allusion, vous l'avez compris, au plan d'action cœur de ville. Ben voilà, quel est le sentiment?
Alors, Action Logement, c'est vraiment un partenaire des territoires, des entreprises et des salariés. Hein, et donc, on est vraiment partenaire, et effectivement, on a toute une gamme vraiment de voilà d'intervention, que ce soit des services aux salariés, de la construction neuve, de la réhabilitation, de la transformation de bureaux, de la résorption aussi d'habitat indigne avec le programme Dinéo de foncière logement.
Il y a même le prêt Action Logement qui permet de se resolvabiliser quand on voit les rigueurs bancaires qui sont incroyables, parce que je veux dire 20 000 euros ça peut resolvabiliser
et requalifier un prêt, donc je précise 30 000 euros avec un taux de 1%. Donc ça c'est des outils qui sont vraiment très utiles et donc c'est vraiment, vous me posiez la question, est-ce que il y a une prise de conscience avec les territoires? Oui, on travaille vraiment bien avec les territoires, et il va falloir qu'on arrive aussi à mettre cette problématique du lien emploi logement au cœur aussi de, je dirais, des politiques publiques qui quelquefois fonctionnent en silo ou quelquefois interrogent. Et c'est vrai que même sur la question de, enfin, pour nous c'est une évidence, c'est notre cœur de métier, et c'est vrai qu'on s'attache à ce que les salariés, ben, ils trouvent des solutions proches de là où ils travaillent. Et ça, c'est, comme vous le dites, c'est un enjeu qui va bien plus loin.
Bien plus loin, bien sûr.
C'est pour eux aussi de la qualité
de vie.
Le
social, les loisirs, l'éducation.
Et c'est pour ça qu'il faut aussi, on a une stratégie de construction dans les endroits où il y a des besoins pour les salariés. Donc on a un travail très fin, parce que nos entreprises et les représentants des salariés sont dans notre gouvernance. Donc en fait, ils connaissent très bien leurs besoins. Donc on arrive à connecter sur les besoins. Et ça, c'est... Enfin, c'est une clé. Ça veut dire qu'il va falloir aussi déverrouiller certains dogmes pour que ce bon sens hein, dont on parle ensemble soit reconnu aussi dans les procédures, dans les modalités d'intervention et dans la facilitation des projets. Parce que les besoins des entreprises, on sait les estimer, mais une entreprise, quand elle a des besoins de recrutement, on est dans l'immédiat. Un projet de construction, il va prendre malheureusement très très longtemps. Donc on a un enjeu aussi d'arriver à raccourcir ces délais parce qu'on arrive à travailler à 5 ans avec des entreprises. Mais aujourd'hui, certains projets vont mettre beaucoup plus longtemps que ça. Donc il faut qu'on trouve justement des moyens d'accélérer et d'utiliser aussi ce qui existe de façon un peu plus optimale.
Une dernière question, avec deux orientations. Il y a bien évidemment la rénovation énergétique qui est un chantier majeur auquel vous vous êtes très tôt attelé. D'ailleurs, on peut même dire que vous avez fait un travail de fond avant même que la législation devienne à la fois normative, contraignante, bien évidemment, dans le bon sens du terme, je précise. Quid, justement, de ce chantier de rénovation énergétique quand on sait qu'aujourd'hui, bon, bah, les problématiques de budget sont ce qu'elles sont, pour retravailler le parc locatif d'Action Logement, je crois que j'irai un peu plus d'un million de logements.
500 000 logements.
Pour vous, c'est un chantier gigantesque également ?
C'est le chantier du siècle. Je le disais, il y a quelques années, notamment quand on a lancé le plan de décarbonation il y a 2 ans, on est en train de le mettre en œuvre. On avait déjà des objectifs ambitieux hein, en matière de réduction et d'économie d'énergie, surtout parce qu'on voulait réduire les charges de nos locataires. Là, ce plan de décarbonation, il se déroule. On faisait le point d'ailleurs hier avec les représentants et les associations de locataires, donc pour leur rendre compte aussi de tout ce qui est fait. Et c'est vrai qu'on est quand même, il nous reste quelques passoires thermiques résorbées, mais on a pris de l'avance en fait. C'est-à-dire que par rapport aux échéances réglementaires, on est en avance de phase. Et notre objectif, c'est que notre parc soit en étiquette au moins C, c'est-à-dire A, B ou C, à l'horizon 2030. Donc en fait, on s'attelle évidemment d'abord aux logements qui sont G, F et ils sont déjà traités. Il reste très 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 peu de logements et on les connaît. Et il y a des problématiques patrimoniales, des problématiques de copropriété hein, qui quelquefois ralentissent ça. Donc ça aussi, c'est des sujets sur lesquels il faut travailler. Et puis, on travaille aussi sur tout le reste du parc et pas que sur un volet carbone et énergie, mais plus globalement sur le confort en fait qu'on apporte. Et ça, c'est des sujets sur lesquels on n'a pas le choix. Et un autre point qu'il faut avoir en tête, c'est le climat ne nous attendra pas et il va falloir apprendre à vivre demain avec des températures plus élevées. Depuis 2010, je crois qu'on a connu 7 des 10 années les plus chaudes des derniers 100 ans.
Donc
ça s'accélère. Et donc il y a tout un enjeu aussi pour nous d'embarquer ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique des logements et donc profiter des rénovations, mais aussi avoir des mesures d'entretien des logements et de rénovation qui permettent demain d'être confortable même avec une température plus élevée. Et ça, c'est un enjeu majeur. C'est intégré dans les nouvelles constructions et on les embarque dans les rénovations.
Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Questions et réponses sur le logement social, en espérant bien évidemment in fine qu'on aura une ministre volontariste et qui tiendra ses engagements. En tout cas, une chose est sûre, c'est que il faudra nécessairement songer à cette priorité nationale qu'est le logement. Merci Nadia Bouillet.
Merci beaucoup.
Je rappelle que vous êtes directrice générale d'Action Logement Group. On va recevoir dans quelques instants Mathieu Massot, le président de FDI Habitat, et on s'approche de la clôture. Je rappelle qu'à 13h30 également, nous recevrons la directrice générale de 3F, Valérie Fournier, qui viendra sur notre plateau. Merci Nadia.
Merci.
Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Sepia sur Radio Immo et Radio Territoria.